Eve Tov Lekula, mais on revient dans notre étude du livre de Shemot. Et nous sommes toujours dans la paracha de Teruma, au chapitre Kaf Vav, verset Aleph. Je pense qu'on a terminé le chapitre Café. On avait fait, mais très vite.
On a dit qu'on allait dire aujourd'hui.
Ah, d'accord, très bien, autant pour moi, très bien. Je me reprends donc. Nous sommes au chapitre Kaf He, verset Lamed Aleph. C'est-à-dire, tu as raison, 100%. Kaf He, verset Lamed Aleph. Non, c'est la page 116 pour cela. Oui. Je viens de dire café, Lamed Aleph. Café, il y a une erreur d'impression dans truc. Ouais, c'est café, Lamed Aleph. C'est-à-dire, alors, juste avant d'arriver dans la menorah, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire la semaine dernière par rapport à la Shulchan. Shulchan Lechem Apanim. Ça, on avait parlé de la Shulchan. Et j'ai oublié de vous dire que la Shulchan était Mekor Amalchut. Yesod Amalchut et de l'abondance due à la royauté se trouve dans la Shulchan, puisqu'on demande à la Shulchan de faire, demande à Moshe de faire à la Shulchan Zer Zahav Saviv. C'est-à-dire que quand vous allez au Machon Amikdash, et bien vous pouvez voir que dans la Shulchan, il y a, je sais pas si ici si j'ai une belle photo pour vous montrer, mais sinon non, tant pis, c'est pas grave. Quand vous allez au Machon Amikdash, vous pouvez voir que la Shulchan, elle a une espèce de couronne tout autour. Ouais, mais c'est pas trop, là on voit pas bien. Non, je sais, en noir et blanc, c'est machin. Normalement, je suis censé avoir ici une image. C'est pas faux. Je suis censé avoir une image quelque part. Bon, tant pis. Ouais. Non, j'ai une image ici, mais bon, on voit pas très bien. Kitsour, un jour, il faudra qu'on fasse un tioul au Machon Amikdash. Et là-bas, on voit très bien la couronne qui est faite tout autour de la Shulchan Yesod à Malchut. Mais également, Yesod à Parnassa. Parce que qui est celui qui emmène la Parnassa? C'est la Malchut. Qui fait que dans le pays, ça se passe bien et qu'il y a à manger? C'est la Malchut. Pardon? À condition de voter le budget et qu'il soit un bon budget. C'est-à-dire L'État. Bah, ça veut dire quoi, quel État? Dans un pays? Non, mais là, c'est pas la question. C'est-à-dire que tu as raison que quand on va décider de quelle malchoute on va mettre en place, ça serait bien que ce soit une bonne malchoute. Mais là, c'est pas le débat. Qu'est-ce qui est le garant de, si tu veux, le bien-être des gens qui vivent dans un pays? C'est l'État. C'est les dirigeants du pays. Ok? En langage tanakhique, ça s'appelle la malchoute. Simplement parce qu'à l'époque, c'était le seul système politique qu'ils connaissaient. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça peut être une royauté, ça peut être une démocratie parlementaire, ça peut être plein de choses. Comme jamais. Ok? Yesod, donc, à Parnassa également, donc, c'est Lechem à Panim. Le Lechem, du Lechem à Panim, ne ressemblait en rien au Chalot que nous mangeons Shabbat. Non. Ça a raison que c'est de la matzah, mais c'est absolument pas de la forme de notre matzah non plus. Puisque d'abord, elles étaient extrêmement épaisses, et en plus, elles avaient une forme qui ressemble à des mains. Comme ça, t'as déjà joué avec des Playmobil? Eh ben, c'est ça les mains des Playmobil? Qu'en irait que les Playmobil ont été inventés au Beth Amikdash? Eh oui, parce que tu connais tous nos amis séfarades, qui lorsqu'ils font le Birkat Amazon et qui disent « Poteach et Yadecha ou Masbi al-Kharif » font comme ça. C'est bien fait, mais le minag à la base, c'était de faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'aspect qu'on donnait au Lechem Apanim, il était justement fait pour ressembler aux mains qui prennent. Comment est-ce que tu représentes des mains en Playmobil? Comme ça. Alors tu vas me dire, bah, Playmobil. Non, c'est le meilleur moyen de représenter des mains. Tout simplement qu'ils tiennent quelque chose. Ok?
Le Lechem Apanim, c'est préservé
des
propositions.
Les? De propositions.
De prépositions.
Lechem Apanim. On va dire l'Echem Apanim, C'est, t'as raison qu'il y en a 12, t'as raison que c'est du pain. Mais le préposition, proposition, je connais pas. Mais peut-être. Ok.
Non, mais à propos de Khalot et de Matzot.
Oui.
Moi j'étais invité chez des gens le 7e jour de Pessah. On a vu le Birkat Amazon dans une Agada.
Mm-hmm.
Parce qu'on ne voulait pas prendre les mercredis de l'année. Alors il y avait des illustrations.
Nous.
Dans le Birkat Amazon, à côté du Rotsé, il y avait des belles Khalot.
Ah bah, c'est beau. C'est là ? Oui. Ah, que lorsque tu les mangeais, bah, Makom, Shéroïm et Tapanim. C'est-à-dire, tu manges au Beth Amikdash. Les Kohanim, ils mangeaient le Chema Panim au Beth Amikdash. Donc, ils voilaient le Pnei Hashem. Ok ? Donc.
C'est un petit peu comme la Massat Emanim, non, peut-être
Non, beaucoup plus gros, beaucoup plus gros. C'est un pain de. C'est un pain d'une taille de pain, quoi. Ok ? Bekitsu, ça, c'était pour ce qui était de la. Hein ? Non, c'est pas rond. C'est pas rond, c'est rectangulaire. C'est rectangulaire. Donc voilà, ça c'était pour ce qui on n'avait pas dit sur la shulchan.
Les ajon, les matzot elles sont rondes.
Les
ajon.
Ouais.
Les matzot elles sont rondes.
Nous. Vasita menorat zaav taor. Miksha taasea teasetra. Miksha teasé amenora. Yerecha vekana geviyea kaftorea uprachea mimena you. Donc on doit faire une menorah. Cette menorah, ben zelo pashut. Zelo pashut. Comment est-ce qu'on va faire la menorah? Dieu il montre à Moshe ve mitkashe Moshe lehavin. Et Moshe il a du mal à comprendre. Nous dit Rashi, t'as pas réussi à comprendre. Jusqu'à ce que Dieu lui montre une menorah en feu, slicha, et c'est, voilà, c'est comme ça qu'il faut la faire. Alors pourquoi Moshe, il a du mal à comprendre? Il y a plusieurs fois où Moshe a du mal à comprendre des choses. On l'avait déjà évoqué lorsqu'il lui a montré Rosh Chodesh. Achodesh azeh lachem Rosh Chodeshim, gamsha mitkasha Moshe. Hein? Ou Machatzit HaShekel, exactement. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui est fondamentalement lié à la Kedusha du Ham Israël, Moshe, il a du mal. Parce que Moshe, il a grandi à l'extérieur du Ham Israël. Même s'il nous dirige et qu'il comprend mieux que n'importe qui la Torah, comprendre le peuple, c'est plus difficile pour lui. Or, la Menorah, son rôle est double. Il y a d'un côté, évidemment, la dimension de Chochma. Nous dirons nos sages, Arotze Leharkim Yadrim. Celui qui veut se remplir de sagesse, qu'il aille au sud. Alors quoi, ça veut dire qu'il aille à Beersheba ? Elat ? Non, c'est juste que la menorah, elle était placée sur le côté sud du Beth Amikdash. Alors que d'un côté, on te dit Arotze Leharkim. Celui qui veut s'enrichir, qu'il aille au nord. Parce que la shulchan, elle était au nord. D'accord ? Donc, la menorah, c'est d'un côté la chokma. Mais c'est autre chose. On se rapproche de la fête de Hanouka et on connaît tous le miracle de la petite fiole d'huile. Faut pas oublier que dans la menorah, il y avait un miracle bien plus imposant que celui de la petite fiole d'huile, puisqu'il y avait un miracle qui était permanent depuis Moshe jusqu'à Shimon HaTzadik. Donc près de 1500 ans de miracle, 1400 ans de miracle, où le nerf à Maharavi, lo aya kave, que la bougie occidentale ne s'éteignait jamais. Et pourquoi ? Zaya sod et doute le chol bae olam, c'était donc le témoignage pour le monde entier, shashrina shora be Israël, que la présence divine règne au sein du peuple juif. En d'autres termes, la menorah, c'est la Kedusha du peuple d'Israël. Par excellence. Ok ? Qu'est-ce qui est plus kadosh ? La menorah ou Aaron Abrit ? L'arche d'alliance d'Indiana Jones.
Il me semble que c'est l'arche d'alliance parce qu'elle marche au fur et à mesure du déplacement.
Tous les kélim marchent. Mais tu aurais pu me dire c'est l'alliance parce qu'elle est dans le Kodesh à Kodashim. Alors que la menorah n'est que dans le Kodesh. Nous. Et donc c'est le coffre. C'est le coffre-fort. Donc qu'est-ce qui est plus kadosh? L'intimité. Nous dit le Rav Kook dans le livre Shmoné Kvatzim. Shmoné Kvatzim, on pourrait traduire ça les huit parties. Dans la partie 8, au paragraphe 157, nous dit le Rav Kook la chose suivante. La menorah semble être moins profonde et kadosh que la Torah qui est dans le Kodesh HaKodashim, dans l'Aaron Abrit et la Torah. Mais ça, c'est une vision, on va dire, superficielle des choses. Qui est plus kadosh? Celui qui est obligé de rester enfermé dans les burs du Beit HaMidrash pour garder sa Kedusha, ou celui qui est capable d'amener la Kedusha également à l'extérieur des murs du Beit HaMidrash? Il y a celui qui est parouche dans Messilat Yesharim, qui doit se priver de plein de choses pour garder sa dimension, et il y a le kadosh qui, lui, peut aller à la rencontre de tout. Donc, bien sûr que la l'Aaron et la Torah semblent être plus kadosh, mais en vrai, c'est la menorah, car elle est à l'extérieur, justement. Parce qu'elle est capable d'amener la lumière également à l'extérieur. Donc la menorah, c'est vraiment le symbole du Ham Israël. C'est donc pas pour rien que les Romains, c'est ça qu'ils ont pris comme symbolique. Alors, ils n'ont pas pris que la menorah, les Romains, quand ils ont détruit le Beit HaMikdash. Ils ont pris aussi la Shulchan. Ils ont pris aussi Mizbeach HaZahav. Il y a plein d'autres ustensiles du Beit HaMikdash qu'ils ont pris. Mais quel est l'ustensile qu'ils ont gravé sur l'Arche de Triomphe de Titus? C'est la menorah. Est-ce que eux étaient conscients qu'ils étaient en train de prendre ce qui symbolisait la Kedusha du peuple juif? J'en sais rien, je pense pas. Mais à Kadosh Baruch Hu, ils savaient. C'est-à-dire? Ah non, tu vas trop. Enfin, tu as oui, oui, tu as raison. Mais je pensais que tu allais me dire avant les Romains, il y en a eu d'autres. Non, c'est pour ça que je voyais pas où tu voulais en venir. Évidemment. Mais en fait, viens, on met les pièces du puzzle ensemble. Comme la menorah, c'est l'essence de la Kedusha du peuple d'Israël. Quand les Goïm nous ont pris notre essence, ils ont fait de la prise de la menorah un symbole. Au même moment, nous, on a fait de la menorah le symbole de notre éternité. Et on va faire imprimer des pièces de monnaie, déjà pendant la révolte, avec la menorah, et marquer le Geoulat Yerushalayim pour la libération de Jérusalem, ou le Geoulat Tzion, ou le Cherut Tzion. Maintenant, cette menorah va devenir donc, eh bien, le symbole du peuple d'Israël. Il y a des menorotes un peu partout. D'accord ?
Et là, le...
Où ? Ah, dans le tableau ? Oui, mais non, mais évidemment ! Mais attends, juste deux secondes. La menorah est donc devenue un symbole beaucoup plus que le Magen David. Le Magen David...
C'est le symbole de l'État d'Israël.
Alors, justement, le Magen David est devenu un symbole juif beaucoup plus tardivement. Ok ? C'est à peu près à l'époque du Maharal de Prague que le Magen David s'impose comme étant un symbole dans toutes les communautés juives. Mais avant ça, c'était la menorah. Et c'est donc absolument pas anodin que dans la prophétie, on retrouve également la menorah comme jouant un rôle clé de la Géoula. Lorsque Akadosh Baruch Hu va envoyer la prophétie à Zecharia Hanavi, au chapitre 14 de Zecharia, la prophétie de la Géoula, il lui dit « Qu'est-ce que tu vois ?» Et il lui dit « Je vois une menorah en or, avec deux rameaux d'olivier de chaque côté. C'est à cause de Zecharia et de la menorah de Titus que lorsque Am Israël a reconstruit son identité nationale, a reconstruit l'État d'Israël, eh bien, c'est choisi comme symbole la menorah de Titus, c'est-à-dire que le socle, quand vous regardez le symbole de l'État d'Israël, le socle, c'est le socle qui a été mis en place par les Romains pour porter la menorah, c'est ce qu'on voit dans l'Arche de Triomphe de Titus, mais d'un autre côté, on a mis également les rameaux d'olivier de chaque côté pour rappeler la névoie de Zecharia Hanavi. Ok ? Ça va pas ? Oui, je t'en supplie. Oui.
Pourquoi ils n'auraient pas caché, alors, si la menorah, c'est aussi important ?
Pourquoi ils n'ont pas caché la menorah, si c'est aussi important ? D'abord, quand est-ce qu'ils ont caché la menorah ? Le Aaron, c'est ça. Ils n'ont pas... Hein ? Yoshiyahu Melech Yehuda. C'est-à-dire qu'on est à l'époque du premier temple. D'accord ? À l'époque du premier temple, un peu moins d'une centaine d'années avant que les Babyloniens n'arrivent, Yoshiyahu, il cache le Aaron Abrit. Parce que Aaron Abrit, c'est Edout Shel Dvar Hashem. C'est-à-dire que le Aaron Abrit contient les Luchot Abrit. C'est la Edout que Dieu parle. Donc, quand on te dit pour le peuple d'Israël, la menorah, c'est le symbole de la Kedusha du peuple d'Israël, Aaron Abrit, c'est au final le symbole de la révélation pour le monde entier. Donc, on peut pas le laisser partir. Ce qui fait que pendant toute la période du deuxième temple, il y aura pas de Aaron Abrit dans le Beth Amigdash. Ce qui fait que les Romains, ils peuvent pas piquer le Aaron Abrit. Ok? Donc, la menorah, c'est quand même un truc très important, elle doit être faite d'un bloc. Bah, ça pèse, et puis surtout, ça veut dire qu'il te faut un sacré bloc d'or. Si tu veux la tailler. Mais personne t'a demandé de la tailler. On t'a demandé que ça soit un bloc. Comment faire ? Tu fais un moule, et tu verses dedans. Alors, tu as pas complètement tort. Puisqu'il y a marqué Ve'asita menorat zahav. L'ordre, c'est toi, Moshe, tu dois faire. Mais, comment le verset continue? Regardez. Ve'asita menorat zahav taor miksha ta'ase. Miksha te'ase amenora. Mais c'est te'ase amenora. C'est un passif. Elle a été faite. Et Rashi nous dit, regardez ce que nous dit Rashi dans te'ase. שלא יעשה נחוליות ולא יעשה קניה ונרותיה איברים איברים ואחר כך ידביקם כדרך הצורפים שקוראים שנדלין שנדליה שנדליה בסדר? אלא כולה בא מחתיכה אחת מקיש בקורנס וחותר בכלי אומנות ומפחיד הקנים אליה ואילך רשי נודן un descriptif très technique de comment elle doit être faite pour que ce soit un seul bloc. Ça m'a regardé deux rachis plus tard. T.A.C. Amenora, Me'elea, toute seule. Les fiches aïa Moshe mitkasheba. Amarlo akadosh borchou, Hashlech et akikar laour, Veina aset me'elea. Lechach lo nirtav ta'ase, Ela T.A.C. Donc elle n'a pas été faite dans le ciel. Mais comme pour le veau d'or, Dieu a dit à Moshe, jette le bloc d'or dans le chaudron pour faire fondre l'or, et elle va sortir toute seule. Donc non, on n'a pas pu mouler à l'époque, parce qu'on n'a pas eu besoin, elle est sortie toute seule. Mais comment le Machon Amigdash a fait sa menorah, que vous pouvez voir dans le centre, le plat central de la vieille ville, ben elle l'a moulé, tout simplement. Ok ? Donc, on parle ici d'une menorah qui a plusieurs dimensions. C'est un bloc, mais elle n'est pas rectiligne. Il y a prachéa, gevia, c'est-à-dire gevia, prachéa, vekaftoréa. Ok? On a des boutons, des fleurs, et des, comment dire, des, ouais, des verres comme ça, gevim, c'est un, un vase comme ça, ouais, comment on dit, un vase. C'est-à-dire, on voit ça très bien dans la menorah du Machon Amigdash. Mais la question, c'est, veshisha kanim yotzim mitzidea, שלושה קנה מנורה מצידה אחד, ושלושה קנה מנורה מצידה השני. Aha. Il y a donc trois branches qui sortent de la branche centrale d'un côté, et trois branches qui sortent de la branche centrale de l'autre côté. Et là, la question est, Rabotai, est-ce qu'il s'agit, hein, ben voilà, est-ce qu'il s'agit de branches rectilignes en diagonale, qui sortent avec un angle de 45 degrés, ou est-ce une menorah arrondie, telle qu'on a l'habitude de la représenter ? Comme là-bas. C'est une vraie question. D'après ton livre, c'est rectiligne. Alors, aujourd'hui, tu vas voir n'importe quel Chabad, il va te dire que c'est évident que la menorah, elle était en ligne droite. C'est-à-dire, et toutes les chanoukiotes de Chabad ressemblent à la menorah d'après Chabad et donc sont en ligne droite. Point. Quand tu vas au Gan chez Chabad et qu'on va te faire la morale dit il faut faire des chanoukiotes, ils ont tous la même. C'est-à-dire, il n'y a pas de décoration possible. On ne rigole pas avec ce genre de choses. J'ai là, d'où ils sortent ça? Ben, ils sortent ça d'un dessin qu'a dessiné le Rambam. Le Rambam a fait un croquis de la menorah et dans lequel il le représente comme ça. Ah ah! Bon, si le Rambam il l'a dit, c'est bon! C'est-à-dire que ça a changé. Ah, pourquoi c'est devenu comme ça après? C'est une même question. Le problème, c'est que le Rambam, il a jamais dit que quand il faisait son dessin, il venait expliquer la forme de la menorah. Il a expliqué simplement les différents éléments de la menorah. Est-ce que tu as déjà vu un croquis, justement? Un schéma? Le schéma ne représente pas la réalité. Mais il est le plus pratique pour pouvoir expliquer les différents éléments qu'il y a dans le chantier. Donc le Rambam a dessiné un schéma comme ça. Mais il n'a pas dit que c'était la forme. Son fils, Rabbi Avraham ben Arambam, dit que non, c'est ça la forme. Ah, donc on a quand même un grand bonhomme qui dit que la forme, elle est en ligne droite. Là-dessus, va reprendre le Rabbi de Lubavitch en disant, c'est la forme. Nulle part. D'après le dessin du Rambam. Et l'avis de leur compréhension des versets, Rashi également nous dit, Be'alarson. Be'alarson, ça veut dire non. Ça veut dire sur le côté. Eh oui. Ça ne veut pas dire forcément une ligne droite. Et donc, la question reste ouverte. Alors, je ne vais donner que mon avis ici. J'espère que les Chabad du monde entier ne me fustigeront pas sur les réseaux sociaux. Voilà, j'espère que j'arriverai entier à la maison. Mais il semblerait que pour le coup, ils n'aient pas raison. Il semblerait que sur ce coup-là, ça paraît compliqué quand même de leur donner raison. Alors tu vas me dire, Rabbi Avraham ben Arambam, je dirais oui, il semblerait que Rabbi Avraham, il n'a pas eu raison. D'abord, l'arc de triomphe de Titus est quand même une preuve archéologique intéressante. Même si le rabbi la connaît. Et il dira que ils ont arrondi la menorah justement pour dénigrer le peuple juif. Ça, c'est compliqué de comprendre pourquoi est-ce que le fait que ce soit représenté arrondi, ça soit dénigrant. Il dit un autre argument, il dit que toutes les représentations arrondies du peuple juif ont été piquées des goïms. Par exemple, dit-il, les louchot abrit qu'on représente dans toutes les synagogues, elles n'étaient pas rondes. Et on les représente rondes. Ça, c'est totalement vrai. Les louchot, elles n'étaient pas rondes. Elles étaient rectangulaires. Mais l'art occidental aime l'arrondi, et donc c'est devenu arrondi. C'est-à-dire... L'arche de Noé quoi? Ah, tu crois que c'était un cube? Enfin, un rectangle? Non, je pense qu'il y a quand même un aérodynamisme minimum. J'ai pas vu la photo, mais bon, un minimum. Alors, enfin bon, le fait est que représenter les chotabrites en mode arrondi, c'est goy. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que c'est le cas pour ce qui est de la menorah? D'après le rabbi, oui. Qu'est-ce qui est l'argumentaire pour dire que c'est pas? Ben d'abord, c'est que tous les autres rabbins, à part le rabbi de Lubavitch et rabbi Avraham ben Arambam, ils ont dit que c'était arrondi. C'est-à-dire, ça fait quand même beaucoup. Tous. Ben, non, tu vas pas me sortir un autre rabbin Chabad. C'est-à-dire, un autre rabbin Chabad, il va suivre le rabbi, d'accord, mais t'as compris. Mais l'autre problème, il n'est pas là. Le problème, il est « En lecha ochacha » Il n'y a pas de meilleure preuve et de plus grande preuve que la réalité des faits. On a retrouvé des mosaïques, des dessins, de ménorotes partout. Et à chaque fois, elles sont représentées arrondies.
Maintenant, qu'est-ce que ça change?
Rien. Absolument rien. C'est juste pour le kiff. Juste pour le kiff. Parce que tu pourrais me répondre, non, mais quand tu trouves une mosaïque du 3e siècle, du 4e siècle, c'est peut-être l'influence des Grecs et des Romains qui ont fait que. Sauf que, on a retrouvé dans la toute fin du 20e siècle, et le problème c'est que le rabbi n'était plus là pour le voir, mais on a retrouvé dans le quartier hérodien. Vous avez déjà été vous balader au quartier hérodien ? Ah bah, les amis, faut se balader en Israël, je comprends pas. N'avez-vous jamais été visiter la vieille ville de Jérusalem ? Eh bien, les amis, il faut organiser une visite au Rova à Hérodiane. Vous avez été à la maison brûlée ? Beit HaSarouf, dans la vieille ville. T'as pas été non plus à la maison brûlée ? Eh bien, ça tombe bien, parce qu'on peut acheter un ticket mix et maison brûlée et quartier hérodien. La maison brûlée et le quartier hérodien sont tout simplement les vestiges de maisons de Kohanim à l'époque du Beit HaMikdash. Donc on rentre dans la maison des Kohanim qui servaient au Beit HaMikdash. Donc c'est vraiment, non seulement c'est ancien, mais c'est vraiment le Inyan. Et dans le Rova Hérodiani, eh bien, un des Kohanim, je connais pas son nom, mais il a gravé sur le mur de sa maison la menorah qu'il voit tous les jours. Et il l'a gravé arrondi. Et c'est plus facile de graver en ligne droite que arrondi. Donc s'il l'a fait arrondi, c'est que vraiment c'est ce qu'il voulait faire.
C'est plus
de tracer, mais pas de graver.
De graver,
je te parle de gravure, je te parle pas de dessin. Ok? Alors, c'est au deuxième sous-sol, troisième porte à droite.
Oui, mais sans ascenseur.
Évidemment. Alors, c'est pour ça qu'ils n'ont pas ramené, parce qu'ils ont été, et comme l'ascenseur ne marchait pas, ils ont dit, on ne peut pas la porter, c'est trop lourd, on la laisse. Hein ? Oui, mais il est en panne. Ah, saute. Donc, je ne sais pas où elle est, là. Non, il y a de fortes chances que la menorah, elle a été fondue et vendue, et ce que tu veux. On n'a aucune preuve, hein, mais a priori... Il y a peu de chances qu'on la retrouve. Ok ? Dans le premier Beit HaMikdash. Dans le premier Beit HaMikdash, il y avait en plus de la menorah, 10 autres.
Il y en a qui, peut-être qui étaient comme ça, arrondis que les Romains ont
pu prendre. Non, mais c'est pour ça que j'ai précisé. Dans le premier Beit HaMikdash, il ne reste plus rien. Les Babyloniens, ils ont tout pris. Tout l'or du Beit HaMikdash, ils l'ont pris. On s'est terminé, il n'y a plus rien. Dans le deuxième temple, il n'y aura qu'une seule menorah. Et c'est celle-là que les Romains ils vont prendre.
Quelle raison il y avait 10 ?
Parce que Shlomo, il avait de l'argent.
C'est dans la Haftara du deuxième Shabbat de Hanouka.
Du deuxième Shabbat de Hanouka. Shlomo, il avait un bonus d'argent. Il a dit, je vais faire encore 10 menorotes et 10 tables de l'Echem Apanim. J'ai de l'argent, qu'est-ce que je veux faire ? J'ai de l'or. Bah, autant faire quelque chose. Quoi deux à la fois ? Elles étaient allumées toutes.
Ah, ils allumaient dans le...
Ça ressemblait à ça. Attention, pyrotechnique. Ça ressemblait à ça. L'intérieur du Beit HaMikdash à l'époque du premier temple. Pas à l'époque du deuxième temple. D'accord ? Ça va pas ? À l'époque du deuxième temple, il n'y a plus qu'une seule menorah et une seule table. Eh, t'as vu ? Malasot. Tov ! Donc, ça c'est la menorah. Ok, on est bon. Et donc, ça ne change rien, halakhiquement parlant, de savoir si elle est arrondi ou en ligne droite. Le Machon HaMikdash, il a fait une menorah arrondie. Elle est kasher al-pi halakha. Prêt à l'emploi, comme tous les ustensiles qu'ils ont fait. Ok? Maintenant, est-ce que demain, on construit le Beit HaMikdash, Moshe, il revient et il dit, elle doit être en ligne droite. Eh ben, on en fera une en ligne droite. C'est le karakloum. Non, Véasita, c'est pas au futur. C'est un ordre. Tu dois faire. Fais. Exactement. שלושה גביעים משוקדים בקנה האחד כתור ופרח שלושה גביעים משוקדים בקנה האחד כפתור ופרח כן לששת הקנים היוצאים מן המנורה ce qu'on a déjà expliqué donc כפתור ופרח un bouton un vase comme ça une fleur ובמנורה ארבע גביעים משוקדים כפתוריה ופרחיה וכפתור תחת שני הקנים ממנה וכפתור תחת שני הקנים ממנה וכפתור תחת שני הקנים ממנה לששת הקנים היוצאים מן המנורה כפתוריהם וכנותם ממנה יהיו. כולה מקשה אחת זהב טהור. ועשית את נרותיה שבעה ועלה את נרותיה ואיר על עבר פניה. Il ne m'a pas demandé de lui dire, il m'a demandé est-ce qu'il y a une symbolique.
Non, mais j'aimerais connaître s'il y a, chez lui, j'aimerais bien.
Il y a une symbolique. Tu ne m'as pas demandé de t'expliquer c'est quoi la symbolique. Tu m'as dit est-ce qu'il y a une symbolique. Je te dis oui, il y a une symbolique. Ah, quelle est la symbolique. Attends. Gviéa, kaftorea, veprachea. Gviim, gavia, c'est ce qui permet de quoi? De contenir quelque chose. C'est un contenant. Alors, lui, l'homme chané. C'est-à-dire que la chokhma, puisqu'on a dit que la menorah, c'était la chokhma, il faut d'abord que tu aies un kli qui puisse le contenir. Ok? Zéalef. Kaftor. Kaftor, c'est pas un bouton comme aujourd'hui, c'est pas un interrupteur. Kaftor, c'est un bouchon. Ok? C'est ce qui permet de fermer. Parce que justement, cet ustensile, il faut qu'il soit capable d'être fermé. Il faut être capable de l'ouvrir et de le fermer. Tu peux pas être en mode continuellement, recevoir la sagesse continuellement. Tu as besoin de temps pour intégrer ce que tu as reçu. C'est-à-dire ? Et enfin, perach. Perach, c'est que ça prend du temps pour grandir. Le monde du végétal prend du temps pour grandir. Ce qui fait que la chokhma, c'est pas que comme on dit en français, t'as pas la science infuse. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va arriver pouf. Il faut que tu prépares le cli, il faut que ce cli, tu puisses l'ouvrir et le fermer, et il faut que tu sois conscient que ça va prendre du temps. C'est ça ? Meshukadim, ça veut dire qu'ils sont incrustés dedans. Oui, shaked. Mais pourquoi comme ça ? Parce que, justement, de la même façon que l'amandier, les feuilles sont directement incrustées, t'as l'impression que ça fait un avec le tronc, ben là c'est pareil, ça fait un. Ok ? Que de la même façon que les feuilles sont incrustées dans le tronc, t'as l'impression que dans la branche, la feuille, tu arrives pas à distinguer vraiment la feuille de la branche, c'est vraiment très 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 proche. Et ben, de la même façon, là, on te dit, c'est incrusté. Ok? Zavtor. Vasita et nerotea, shiv'a ve'ela et nerotea, ve'ir al ever panea, umalkachea, umachtotea, za'av ta'or. Donc, les ustensiles qui vont servir également à amener l'huile, à débarrasser les déchets de ce qui a fini d'être brûlé, les mèches, machin. Tout ça se fait également en Zahav Tahor. Ya seotam et kol akelim a ele. Ure veaseh betavnitam et asher ata mar'e bar. Ok? Ah! Ben, oui, on peut expliquer. Ben, on vient de le dire. Il faut faire les nérotes.
Oui, j'ai compris.
Ok ?
Non, j'ai pas compris.
Alors, dis-moi.
Quoi ? La décoration.
Quelle décoration ? On t'a pas parlé de décoration. On t'a pas parlé de décoration.
Après, il faut.
Mais choukadim, ça veut pas dire qu'on t'a fait des amandiers dessus. On n'a pas fait des feuilles d'amandier.
Ah.
C'est juste pour t'expliquer qu'ils sont incrustés, le gavia, kaftor, veperar, ils sont incrustés dans le truc. Ça fait un avec la branche de la menorah.
D'accord.
Et c'est pour ça que le terme utilisé, c'est meshukad.
Ah, d'accord.
Ok? C'est pour ça que j'ai traduit par incrusté. D'accord? C'est pas qu'on t'a fait des dessins de. C'est pas interdit.
Oui.
Si, l'artiste a envie de faire des dessins d'amandier en plus dessus, chez Yé, la brioute. Ok? Oui.
La branche, donc le keli, il est relié, la branche, c'est le tsinor.
Ah, le Midrash va nous expliquer que les trois qui partent de chaque côté et les trois qui partent de l'autre côté sont reliés au kané à Echad. Le kané à Echad, c'est la Torah. Et les six autres, c'est toutes les autres chochmot qu'on peut étudier. C'est pour ça que le Midrash nous dira que les six bougies, les six mèches pointées vers la mèche du milieu. C'était aussi un miracle.
C'est quoi les six chochmot ?
Comme c'est dessiné là-bas.
C'est quoi les six chochmot ?
C'est quoi les six chochmot ? Il n'y a pas, le Midrash, il n'est pas mefaret. Il n'est pas mefaret. Tu rentres dedans tout ce que tu veux.
D'accord. Ça.
Tout ça.
C'est-à-dire, on a le droit de tout.
On a le droit.
Non, la philo, je sais pas, j'avais entendu. Rabbi Nachman, il dit que il faut pas s'attarder aux chochmot étrangères comme la philosophie, tout ça.
Est-ce qu'il a dit qu'il avait, est-ce qu'il avait dit qu'on n'avait pas le droit de les étudier ? Est-ce qu'il a dit qu'on n'a pas le droit de les étudier ? Il y a une différence entre faut pas s'attarder et
pas
étudier. Donc, tu es en train de me dire que Rabbi Nachman, il connaissait pas toutes ces chochmot. S'il connaissait pas les chochmot, c'est qu'il peut pas s'asseoir au Sanhedrin. Donc, toi, tu es en train de me dire que Rabbi Nachman, il est pas digne de faire partie du Sanhedrin. Ah, c'est ce que tu as dit!
Il nous a donné comme conseil.
C'est ce que tu as dit!
Pas du tout.
Je t'ai demandé, est-ce que tu penses qu'il connaissait les chochmot? Tu m'as dit non!
J'ai pas dit que lui connaissait.
Qui ne dit mot qu'on sent. Kitzor, je te taquine. Rabbi Nachman, il sait très bien à qui il parle. Et à son époque, il sait très bien que si tu commences à t'exciter dans les chochmot de l'époque napoléonienne, tu vas t'y perdre. Mais c'est évident que au niveau halachique toranique, si tu veux t'asseoir au Sanhedrin, nous explique le Rambam dans Ilchot Sanhedrin, que les membres du Sanhedrin doivent connaître tout. Tout. Y compris la Avodah Zara, machin, tout. Donc c'est-à-dire que tu dois connaître. Ah, mama. Ah, mama. Ah, mama. Nous dit Rabbi Nachman de l'écouter, Moharan, qu'il y a des questions dans lesquelles il ne faut pas aller regarder. Ce sont les questions qui n'ont pas de réponse. Yesh chez Elot, chez En Aleem Teshuva. Elles viennent du monde qui s'appelle Hasheol. Hasheol. C'est une dimension qui est Kulo chez Ela. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de lettres qui ont été créées par Dieu pour donner des réponses à ces questions. Et donc,
hein ?
Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas une dimension physique, c'est une dimension métaphysique. OK ? Et le problème, c'est que si tu vas chercher là-dedans, comme tu n'as pas les lettres suffisantes pour répondre, bah, tu vas t'y perdre. Aval. À tzadik, ou tzarich la'ayen be'otam ha'she'elot. Ok? À tzadik, chez Umiprinat Moshe, lui, il doit y aller. Omer Rav Kook, bador shelanu, kulanu tzadikim miprinat Moshe. Donc, kulam tzrim la'ayen ba'she'elot. Tout le monde doit aller regarder. Pourquoi? Parce que, aujourd'hui, on a les kelim pour répondre. Exact. Ou autre chose. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien que tu ne dois pas étudier. Tu dois tout étudier. Évidemment, pas toute seule. En contact avec tes maîtres, avec tes rabbanim, en contact avec ceux qui peuvent te dire là où c'est nachon, là où c'est lon nachon. Mais il est évident qu'il ne peut pas y avoir d'idéal dans le judaïsme à la stupidité. Im Hashem Echad, alors ça veut dire que tout dépend de sa gouvernance, et donc tout est important. C'est improbable, non pas, je dis n'importe quoi, c'est impensable que le judaïsme demande à un juif de ne pas savoir.
Même d'étudier des philosophes qui...
Kol Besseder, à condition que tu ne les prennes pas pour des rabbanim.
Ouais. D'accord, on peut être influencé par leur philosophie.
Question a été posée à Rabbi Moshe Ben Maimon. T'as entendu parler de Rabbi Moshe Ben Maimon ? Le Rambam.
Le des
par exemple, était-il philosophe, le Rambam?
J'ai l'impression que oui.
T'as l'impression que oui. Moi, je suis sûr que non. Tu sais pourquoi? Parce qu'on l'appelle pas Mbmam, on l'appelle Rambam. C'est-à-dire que le R, c'est Rabbi Moshe Ben Maimon. S'il avait été philosophe, on l'aurait appelé Moshe Ben Maimon. Il n'était pas Rav Docteur parce qu'il n'avait pas encore rencontré le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Donc il ne savait pas qu'il y avait le concept de docteur rabbinaire. Il était docteur. Mais quand il était docteur, il n'était pas rabbin. Quand il était rabbin, il n'était pas docteur. Mais le Rambam connaissait tous les philosophes de son époque et des époques antérieures. Et il les connaissait tous et il les respectait, et ce que tu veux. Mais en aucun cas, il était philosophe. Il était Rav, Talmid Chacham. Pourquoi il a étudié tout ça? Pourquoi il a étudié tous les philosophes? Et Aristote, il le cite, en veux-tu, en voilà. Et Abou Nasser al-Farabi, une grande partie du Moré Nevouchim, c'est Abou Nasser al-Farabi. Pourquoi? Pourquoi? Qui que quoi? Parce que le Rambam va citer une phrase qui ne vient pas de lui, qui vient de l'oncle de Muhammad, qui dit, alors il le dit en arabe, mais je vais t'épargner ça, il dit, « Shma et ha'emet mimi she'amara ». Écoute la vérité de celui qui l'a dit. Si les goyim ont dit quelque chose de vrai. Ah, il a fait. C'est pour ça qu'il est évident que tu ne vas pas t'entonner à la philosophie tant que tu n'es pas Baki, Betoratenu, Akdosha. C'est évident que tu dois d'abord te remplir de Torah avant de te remplir de bêtises. Et avant de te remplir de Chochmot qui ne sont pas des bêtises, mais qui ne sont pas la Torah. Il faut que tu aies ton cadre, c'est sûr. Mais de là à dire, il y a des choses que je n'étudie pas, je te dira non. Et je, et il te dira non. Parce que non, c'est pas possible. Ainsi, le Rambam, on lui a posé une question. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des discussions avec les chrétiens et avec les musulmans? La question lui avait été posée après lui avoir demandé est-ce qu'on a le droit de se moquer de Jésus et de Mahomet? Et est-ce qu'on a quel est notre lien avec le christianisme et l'islam? Le Rambam a répondu que le christianisme c'est de l'idolâtrie et que l'islam c'est pas de l'idolâtrie. Que yesh yichud taor etzlam. Il y a aucun problème d'idolâtrie dans l'islam. Que on n'a pas le droit de dénigrer ni Jésus ni Mahomet parce qu'ils ont aidé le monde à se rapprocher du monothéisme. Avec certains problèmes évidemment, mais quand même c'est vachement mieux que l'idolâtrie d'avant. Et troisièmement, est-ce qu'on a le droit de parler avec eux? Le Rambam a dit, avec un musulman, non. Avec un chrétien, oui. Lama. Avec un musulman, non, parce qu'il a dit, ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Parce qu'il a dit, la ta'ana de base, le postulat de départ de l'islam, c'est que tu as falsifié le Coran. C'est-à-dire que pour eux, le point de départ, c'est que les juifs sont des menteurs et qu'ils ont transformé la vérité, que la vérité c'est pas la Torah, c'est le Coran, et que donc ils ont falsifié le Coran. Alors à partir de là ça sert à rien d'avoir un débat avec lui. Tu vas dire mais il y a marqué dans la Torah que, donc ça ne sert à rien. C'est-à-dire que d'un côté il dit c'est pas de l'idolâtrie, c'est kasher l'islam, mais ça sert à rien de parler avec eux parce que il n'y a pas la même base.
Même si la Torah est bien antérieure,
c'est pas le débat. Le musulman, ça sert à rien. T'es pas en train d'essayer de prouver. Tu vas avoir un dialogue avec lui, un dialogue théologique avec un musulman. Il dit, le Rambam te dit, ça sert à rien, puisque le postulat de départ fait que vous parlez pas le même langage. Donc ça sert à rien. Vous pouvez parler, mais vous arriverez jamais à discuter ensemble pour de vrai. D'ailleurs, alors qu'avec un chrétien, bien que d'après le Rambam, le christianisme c'est l'idolâtrie, le postulat de départ de l'Église, c'est que la Bible, l'Ancien Testament, comme ils appellent ça, c'est émette. C'est juste qu'ils l'ont mal lu. Et eux, ils ont trouvé Jésus là-bas. C'est-à-dire que voilà, ils acceptent la Torah comme étant, le Tanakh comme étant émette. Donc, comme ils ont mal lu, explique-leur. Et comme ça, ils font tchouva. Ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment, le Rambam pense que tu peux être influencé par le chrétien. Par le chrétien. Il dit, c'est toi qui lui feras faire tchouva. Parce que le Rambam, contrairement à beaucoup de gens, était saint d'esprit. Et donc quand tu me demandes, mais on peut peut-être être influencé? Non, quand t'es bien fait, t'es pas influencé. Quand tu connais la vérité, tu connais la vérité. Je t'ai dit ça il y a à peu près 7 minutes, qu'il est évident qu'on doit d'abord se remplir de Torah avant d'aller regarder ailleurs, c'est évident. D'abord, se créer des cadres, ça prend pas toute une vie. On t'a pas demandé d'être gdolador. On t'a demandé de savoir quel est le cadre de la Torah. Deuxièmement, oui, il faut étudier tout le temps. On a une mitzvah, messieurs, d'étudier la Torah tous les jours. C'est tout. Donc, voilà, on est d'accord qu'il faut aussi tout savoir. Voilà, ça. Non, mais, bien sûr qu'on ne saura pas tout, mais de là à dire non, ça, non, c'est pas juif. Ce n'est pas juif. Regarde, il y a dans Igrot Reiya, hein, dans les lettres du Rav Kook, il y a un homme qui a écrit un bouquin, un Talmid Chacham, un Rav, qui a écrit un livre pour expliquer la Torah aux Japonais. À l'époque du Rav Kook, je te parle. Donc je te parle de ça il y a 120 ans. Et il envoie le livre au Rav Kook pour avoir une askama. Et le Rav Kook, il lui répond que l'idée est très bonne, mais que c'est très mal fait. Et il lui explique pourquoi c'est très mal fait. Il dit, tu as ramené comme thèse au niveau de la psychanalyse et de la réflexion de l'être les thèses de 1, 2, 3, 4, 5, des goïms. Il dit, les Japonais, ils sont très bons dans la psychologie humaine, et ils ont lu ça, et ils savent que ça a déjà été remis en cause par, et ils donnent d'autres noms de scientifiques. Donc, c'est-à-dire que le Rav Kook, il les connaît. Il les connaît tous. Il a étudié ça, je ne sais pas combien de temps il a pris pour les étudier, tu vois, mais il connaît. Donc ça veut dire que chacun a son niveau, bien évidemment. Mais de là à dire qu'il y aurait un idéal à ne pas connaître, à Tchouvaï, l'eau. Ok ? Oui ?
Je voudrais savoir pour quelle raison, pour étudier la Kabbale, il faut être marié et avoir plus de 40 ans.
Tu as tout à fait raison. Il faut avoir plus de 40 ans pour étudier la Kabbalah. C'est la raison pour laquelle le Harizal, le maître de la Kabbalah, est mort à 37 ans.
Et donc ça veut dire qu'un jeune célibataire de 50 ans, il ne peut pas étudier la Kabbalah ?
Ça veut dire qu'il faut avoir 40 ans pour étudier la Kabbalah. Seulement personne ne nous a dit à quel âge on avait 40 ans. Il y a des gens qui ont 40 ans à 20 ans, il y a des gens qui ont 40 ans à 40 ans, il y a des gens qui auront 40 ans vers 90 ans.
Non, mais il faut être mature.
C'est ce que je viens de te dire.
Non. Ouais.
Personne ne t'a dit à quel âge tu avais 40 ans. C'est ça ?
Qu'est-ce que tu dis au monde haredi et chassidi qui, eux, ont mis un vrai idéal de ne pas connaître, de ne surtout pas s'approcher de tout ce qui n'est pas kadosh ?
Mais ils ont tort.
Mais ils s'appuient sur quoi ?
Ah, sur la peur de l'influence extérieure.
Ils sont pas sûrs d'eux.
C'est ça. C'est pas shoot. Maintenant que j'ai dit ça, et c'est ce que je pense, je sais aussi que dans les faits, sur le terrain, des fois, ils ont plus raison que moi.
Ah oui, ben, pour voir comment toutes les conversions et l'assimilation qu'il y a eu, l'émancipation...
Ah non, ça c'est... C'est, oui, mais ça, c'est pas un contre-argument à ce que moi j'ai dit. Parce que les mecs qui se sont assimilés, ils n'avaient pas la Torah. C'est quand même vachement plus rare. C'était quand même très rare de voir des rabbanim qui tout d'un coup ont rasé leur barbe. Mais par contre, on a vu des gens qui ont abandonné et les enfants qui ont grandi dans l'assimilation, bah, ils ont grandi dans l'assimilation. Mais de là à dire que les gens qui étaient pleins de Torah, ils ont été assimilés, c'est autre chose. Maintenant, là où je dis que peut-être que sur le terrain, ils ont plus raison que moi, je reste persuadé qu'ils ont tort dans l'idée. Mais je reste aussi très malheureusement pragmatique et je vois ce qui se passe dans le milieu des gens religieux qui prônent de tout connaître. Le milieu qui s'appelle « Shelanu ». Notre milieu. Celui qu'on appelle les kippotes tricotés. Qui disent, faut aller à l'université, faut aller trucs, faut aller machin, faut aller trucs. Ça? Très bien, kalakavod. Dans les faits, il faut bien reconnaître qu'on a un grand, grand, grand problème dans la capacité qu'on a à transmettre les valeurs de la Torah à nos enfants et surtout les valeurs, de l'application des mitzvot. Et de la halakha. C'est une réalité. C'est une réalité, voilà. Je peux pas te dire d'autre. Donc dans l'idéal, c'est sûr qu'ils ont tort. Dans la façon de faire, je pense qu'ils ont tort aussi. Mais je suis pas certain que dans la façon de faire, on ait raison non plus. Encore une fois, Et mal à ça, tu regardes ce qui se passe dans le monde d'Atile Oumi, le respect de la halakha, c'est pas leur point fort. C'est un problème. Il faut essayer de trouver un équilibre. Je ne sais pas si tout le monde l'a.
Donc, Rabbeinu, il a raison dans la...
Non. Dans la Rabbeinu, il a raison au XVIIe siècle. Mais certainement pas aujourd'hui. La preuve, c'est que ça ne marche pas. C'est-à-dire que même dans le monde Haredi, il y a une volonté aujourd'hui de sortir des murailles. Oui, mais ça d'ailleurs, mais même les philosophies aujourd'hui, il n'y a pas de problème d'étudier si tu as une réponse à apporter. C'est ça ? Faut commencer par te remplir de Torah. Et maintenant, tu veux que je te dise la vérité ? Personne ne va te demander ton avis. Les gens qui sont en recherche, ils vont aller étudier. Donc le truc, c'est que toi, tu dois avoir des réponses à leur donner. On s'éloigne un petit peu, certes, c'est pas faux. Mais d'un autre côté, je citerai ici le Rav Zaks qui avait dit, on vient de fêter, enfin de commémorer un an de sa disparition, il avait dit qu'un jour, il marchait avec son papa, il était jeune, et il posait plein de questions à son père sur la halakha, sur le judaïsme, il ne vient pas d'une famille religieuse. Et son père lui a dit, tu sais, je ne sais pas. Ah, je n'ai pas reçu d'éducation religieuse, je ne sais pas te répondre à tes questions. Mais toi, je t'ai mis dans une école juive, et je vais tout faire pour te donner une éducation religieuse pour que tu connaisses tes origines, et j'espère qu'un jour, tu pourras, toi, me donner les réponses. Et c'est comme ça qu'on devient grand rabbin d'Angleterre. Et il a étudié la philosophie. Et il a été une des voix qui a réussi à se faire entendre dans le monde entier. C'est-à-dire ? Donc, faut réfléchir. Faut réfléchir. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, ben voilà, on est effectivement arrivé au chapitre Kaf-Vav, comme je l'avais dit au début du cours. Ça nous aura pris juste un cours pour y arriver. Chazak ou Baruch.